En juin, notre campagne avait franchi un cap. Grâce à l'envolée spectaculaire des dons récoltés par Internet, notre situation financière dépassait à présent de loin nos projections initiales, ce qui nous a permis très tôt d'acheter des spots télé sur les chaînes de l'Iowa. Dès la fin de l'année scolaire et le début des vacances d'été, Michel et les filles ont pu me rejoindre plus souvent sur la route. Bourlinguer en camping-car d'un bout à l'autre de l'Iowa, entendre le bruissement de leur voix derrière moi tandis que je passais des coups de fil, voir Reggie et Marvin affronter Malia et Sacha dans des parties marathon d'Uno, sentir contre moi le poids plume de l'une ou l'autre de mes filles, endormies pendant un long après-midi passé à avaler les kilomètres, sans oublier bien sûr les arrêts obligatoires pour manger une glace. Tous ces moments me remplissaient d'une joie qui se traduisait dans mes apparitions publiques. Ces apparitions, elles aussi, ont sensiblement évolué. Quand la curiosité initiale suscitée par ma candidature a commencé à s'estomper, j'ai pu m'adresser aux électeurs dans des conditions plus raisonnables, devant quelques centaines de personnes plutôt que des milliers, ce qui me permettait de nouveau de passer des moments en tête à tête avec les gens et d'écouter leur histoire personnelle. Les épouses de soldats me parlaient de la difficulté de devoir chaque jour faire tourner le ménage tout en luttant contre l'angoisse permanente à l'idée de recevoir des nouvelles funestes du front. Les agriculteurs évoquaient les pressions qui les avaient contraints à renoncer à leur indépendance au profit des intérêts des géants de l'agro-industrie. Des travailleurs qui s'étaient fait licencier énuméraient les mille et une raisons pour lesquelles aucun programme de formation professionnelle n'avait été en mesure de les aider. Des patrons de petites entreprises me racontaient qu'ils s'étaient saignés aux quatre veines pour prendre à leur charge l'assurance maladie de leurs employés, jusqu'au jour où l'un d'entre eux était tombé malade, ce qui avait entraîné une hausse subite des cotisations que plus personne dès lors, y compris le patron lui-même, n'avait les moyens de payer. Grâce à ces témoignages, mon discours de campagne est devenu moins abstrait. Il parlait de moins en moins à l'intellect et de plus en plus au cœur. Les gens se reconnaissaient dans ces histoires où ils voyaient le reflet de leur propre vie. Ils se rendaient compte qu'ils n'étaient pas seuls face à l'adversité et ils étaient de plus en plus nombreux, encouragés par cette prise de conscience, à s'engager comme bénévoles pour défendre notre cause. Faire campagne à cette échelle plus personnelle, plus humaine, m'a par ailleurs offert l'opportunité de faire de belles rencontres à travers lesquelles la campagne s'incarnait. C'est ce qui s'est passé un jour de juin, alors que je me trouvais à Greenwood, en Caroline du Sud. Si je passais la majeure partie de mon temps dans l'Iowa, cela ne m'empêchait pas en effet de visiter régulièrement d'autres États comme le New Hampshire, le Nevada et la Caroline du Sud, où les primaires et les caucus allaient se suivre coup sur coup. Je m'étais rendu à Greenwood pour honorer la promesse que j'avais faite, un peu à l'improviste, à une élue influente qui avait accepté de m'apporter son soutien à la condition expresse que je vienne la voir dans sa ville natale. Or, ce déplacement intervenait à un mauvais moment. Nous venions de traverser une semaine particulièrement houleuse, plombée par de mauvais sondages, de mauvais articles dans la presse, une mauvaise humeur générale et de mauvaises nuits de sommeil. Pour ne rien arranger, Greenwood se trouvait à plus d'une heure de route de l'aéroport le plus proche. Nous avions dû faire le trajet sous des torrents de pluie, et quand j'étais enfin arrivé devant le bâtiment municipal où devait avoir lieu la rencontre, il n'y avait qu'une vingtaine de personnes réunies à l'intérieur, tout aussi dégoulinantes que moi à cause de l'orage. Une journée gâchée, me suis-je dit en songeant à tout le travail que j'aurais pu faire à la place. J'étais en pilotage automatique, je serrais les mains, je demandais aux gens ce qu'ils faisaient dans la vie, tout en essayant de réfléchir sans rien laisser paraître, au moyen le plus rapide de déguerpir de là, quand soudain, j'ai entendu tonner une voix.
« Au taquet !»
Mon staff et moi avons sursauté. Pendant une seconde, nous avons cru qu'il s'agissait peut-être d'un perturbateur, mais tout le monde dans la salle a aussitôt répondu du tac au tac et à l'unisson
« Prêt à foncer !»
Ne sachant pas trop ce qui se passait, je me suis retourné et j'ai vu d'où provenait cette clameur. Une femme noire d'un certain âge, habillée comme si elle revenait tout juste de la messe, avec une robe colorée, un grand chapeau et un large sourire au milieu duquel brillait une dent en or. Elle s'appelait Edith Childs. Membre du conseil municipal de Greenwood et de l'antenne locale de l'Association nationale pour l'avancement des personnes de couleur, NAACP, et détective privée dans le civil, il s'est avéré qu'elle était réputée pour ce cri de ralliement particulier. Elle avait l'habitude de le lancer lors des matchs de foot pour encourager l'équipe de Greenwood, pendant le défilé du 4 juillet, les réunions associatives, ou chaque fois que l'envie lui en prenait. Pendant plusieurs minutes, Edith a continué à mener le cœur en hurlant encore et encore « Au taquet, prêt à foncer !» J'étais un peu désarçonné au début, mais je me suis dit qu'il serait impoli de ma part de ne pas suivre le mouvement. Et bientôt, voilà que moi aussi, je commençais à me sentir au taquet. Moi aussi, j'étais prêt à foncer. Et j'ai remarqué que tout le monde dans la salle affichait soudain de grands sourires. Une fois ce petit cérémonial terminé, nous nous sommes assis tous ensemble et nous avons discuté pendant une heure de la communauté, du pays et de ce que nous pouvions faire pour améliorer les choses. Après mon départ de Greenwood, pendant le reste de la journée, je pointais du doigt un membre de mon staff de temps à autre et je lui demandais « T'es au taquet ?» Tant et si bien que ce rituel a fini par devenir l'un des cris de ralliement de la campagne. Et je crois que c'est cet aspect-là de la politique qui me procurerait toujours le plus de plaisir. L'aspect qui ne pouvait pas se traduire en diagramme, qui échappait à toute planification, qui défiait toute analyse. Ce moment où, quand elle fonctionne, une campagne politique et par extension une démocratie devient une partition pour cœur plutôt qu'un solo. Autre leçon que m'ont apprise les électeurs. Ils n'avaient aucune envie de m'entendre seriner les sempiternelles rengaines de la sagesse populaire. Pendant les premiers mois de la campagne, je m'étais inquiété, du moins inconsciemment, de ce que les faiseurs d'opinion à Washington pouvaient penser. Soucieux de paraître suffisamment sérieux ou d'avoir un profil présidentiel, j'étais devenu raide et emprunté, sapant ainsi les fondements mêmes du raisonnement qui m'avait poussé à me présenter. Mais au début de cet été-là, nous étions revenus à nos principes fondamentaux et saisissions désormais la moindre occasion de prendre le contre-pied des pratiques politiques traditionnelles à Washington et de parler sans langue de bois. Lors d'une réunion avec les membres d'un syndicat enseignant, je m'étais prononcé en faveur d'une revalorisation des salaires et d'une plus grande flexibilité dans les salles de classe, mais aussi d'une responsabilité accrue des professeurs. Cette dernière remarque avait été accueillie par un silence assourdissant dans l'Assemblée, puis les huées avaient commencé à fuser de toutes parts. Devant le Detroit Economic Club, j'avais déclaré à des dirigeants de constructeurs automobiles qu'en tant que président, je ferais tout mon possible pour défendre des normes plus strictes en matière de consommation de carburant, position contre laquelle les Big Three, les trois plus gros constructeurs du pays, étaient vent debout. Quand un groupe répondant au nom de « citoyens de l'Iowa pour la défense des priorités de bon sens » sponsorisé par les célèbres fabricants de glace Ben & Jerry's a réuni 10 000 signatures pour soutenir celui des candidats au caucus qui promettrait de couper dans le budget du Pentagone, j'ai dû appeler Ben ou Jerry, je ne me rappelle plus lequel des deux, pour dire que même si j'étais d'accord avec leur objectif et si j'avais très envie d'obtenir leur soutien, je ne pouvais pas, en tant que président, me retrouver pieds et poings liés par un quelconque engagement pris pendant la campagne sur des questions de sécurité nationale. Ce groupe a finalement décidé de soutenir John Edwards. J'ai commencé à me distinguer de mes adversaires démocrates au-delà de la plus évidente de nos différences. Au cours d'un débat à la fin du mois de juillet, on m'a montré des images de Fidel Castro, du président iranien Mahmoud Ahmadinejad, du leader nord-coréen Kim Jong-il, ainsi que deux ou trois autres despotes, et on m'a demandé si je serais prêt à les rencontrer durant la première année de mon mandat. J'ai répondu oui, sans la moindre hésitation. J'étais disposé à rencontrer n'importe quel dirigeant si je pensais que cela pouvait servir les intérêts américains dans le monde. Ma foi, j'aurais pu tout aussi bien affirmer que la Terre était plate. À la fin du débat, Clinton, Edwards et un bon nombre d'autres candidats s'en sont donnés à cœur joie, m'accusant d'être naïf, et déclarant que rencontrer le président des États-Unis était un privilège qui se méritait. Dans l'ensemble, la presse semblait d'accord avec eux. Quelques mois plus tôt, j'aurais pu me laisser déstabiliser, regretter la manière dont j'avais formulé ma réponse, et m'empresser de publier une déclaration pour clarifier mon propos. Mais j'étais désormais bien campé sur mes deux jambes, et j'étais convaincu d'avoir raison, notamment sur le principe général selon lequel l'Amérique ne devait pas craindre d'affronter ses adversaires ou de privilégier la voie diplomatique pour résoudre les conflits. À mon sens, c'était précisément ce manque de considération pour les solutions diplomatiques qui avait conduit Hillary et tous les autres, sans parler des principaux organes de presse, à suivre George W. Bush dans la guerre. Une autre question de politique étrangère a surgi quelques jours plus tard, quand j'ai déclaré à l'occasion d'un discours officiel que si je tenais Oussama Ben Laden dans ma ligne de mire sur le territoire pakistanais et si les autorités pakistanaises ne parvenaient pas ou se refusaient à le capturer ou à le tuer, je n'hésiterais pas à appuyer sur la détente. Ces mots n'auraient dû surprendre personne. En 2003, j'avais justifié mon opposition à la guerre en Irak en partie sur la conviction que cette intervention militaire nous éloignerait de l'objectif principal, à savoir la destruction d'Al-Qaïda. Mais ce genre de déclaration radicale allait à l'encontre de la position publique de l'administration Bush. En effet, le gouvernement américain continuait d'alimenter la double fiction suivante. D'une part, que le Pakistan était un allié fiable dans la guerre contre le terrorisme. D'autre part, que nous n'avions jamais enfreint les frontières du territoire pakistanais pour poursuivre des terroristes. Ma petite phrase a provoqué un tollé à Washington et dans les deux camps. Joe Biden, alors président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat, et John McCain, candidat républicain à la présidence, ont tous deux déclaré que, selon eux, je n'étais pas prêt à devenir président. À mes yeux, ces épisodes montraient clairement à quel point l'establishment de la politique étrangère à Washington se fourvoyait, se lançant dans des opérations militaires sans tester d'abord les options diplomatiques et se perdant au contraire en rondes jambes diplomatiques au nom du maintien du statu quo dans les situations où il aurait fallu justement passer à l'action. C'était par ailleurs la preuve éclatante du gouffre qui s'était creusé entre les instances décisionnaires à Washington et le peuple américain. Je ne parviendrai jamais tout à fait à convaincre les experts de la politique nationale que j'avais raison sur tous ces points, mais une drôle de tendance a commencé à se dessiner dans les sondages après chacune de ces empoignades. Les électeurs de la primaire démocrate semblaient d'accord avec moi. Disposer d'arguments aussi solides m'a libéré et m'a rappelé pourquoi je me présentais. Ils m'ont aidé à retrouver ma voix en tant que candidat. Cette confiance nouvelle s'est manifestée, quelques débats plus tard, lors d'une confrontation matinale à l'université Drake dans l'Iowa. Le modérateur, George Stephanopoulos de la chaîne ABC, a très vite tendu la perche à Joe Biden pour lui donner tout loisir d'expliquer en quoi, au juste, je n'étais pas prêt à devenir président. Avant mon tour de parole, cinq minutes plus tard, j'ai dû écouter presque tous les candidats à la tribune me descendre en flèche. Eh bien, vous savez, afin de me préparer à ce débat, je suis allé faire quelques tours d'autotamponneuse, ai-je dit, reprenant une réplique que m'avait soufflé Axe en référence à ma visite très médiatisée de la foire annuelle de l'Iowa en compagnie de Malia et Sacha quelques jours plus tôt. Le public a ri, et pendant les 60 minutes suivantes, j'ai croisé le fer avec mes adversaires sur la même tonalité joyeuse. J'ai suggéré qu'un électeur démocrate désireux de savoir qui représentait le vrai changement par rapport à la politique désastreuse de George Bush n'avait qu'à observer attentivement la place que chacun d'entre nous occupait sur cette scène. Pour la première fois depuis le début des débats, je m'amusais, et ce matin-là, le consensus parmi les experts était que j'avais gagné. C'était un verdict très gratifiant, ne serait-ce que parce que je ne serais pas obligé, pour une fois, de voir les membres de mon staff afficher une mine déconfite. « Tu les as massacrés !» m'a lancé Axe en me tapant dans le dos. « On devrait demander à ce que tous les débats soient organisés à 8h du matin, dorénavant, » a plaisanté Plouffe. « Ah non, ai-je dit. Arrête, ce n'est pas drôle. Je n'étais pas du matin, et je ne le suis toujours pas. » Nous nous sommes entassés dans la voiture, et nous sommes partis vers notre prochaine étape. Nos supporters étaient venus se presser en une foule compacte le long de la route, et nous les avons entendus crier longtemps encore après les avoir laissés derrière nous.
« Au taquet ! Prêt à foncer !»
Si les modérateurs avaient à ce point focalisé leur attention sur moi durant le débat à l'université Drake, c'était notamment en raison d'un sondage réalisé pour la chaîne ABC qui, pour la première fois, me donnait en tête, quoique d'un point à peine devant Clinton et Edwards. La course était serrée, à l'évidence. Des sondages ultérieurs me rétrograderaient très vite à la troisième place. Mais notre campagne dans l'Iowa avait manifestement eu un impact, surtout chez les jeunes électeurs. On le sentait dans les foules qui venaient nous voir, leur nombre, leur énergie, et surtout la quantité de cartes de soutien et de nouvelles inscriptions de bénévoles que nous engrangions à chaque étape. À moins de 6 mois du caucus, nous montions chaque jour un peu plus en puissance. Malheureusement, ces progrès ne se traduisaient pas dans les sondages à l'échelle nationale. Comme nous avions concentré nos efforts sur l'Iowa et, dans une moindre mesure, sur le New Hampshire, nous n'avions acheté que très peu de temps de passage sur les chaînes de télé ailleurs, si bien qu'en septembre, nous avions encore 20 points de retard sur Hillary. Plouffe a fait tout ce qu'il pouvait pour expliquer à la presse que les sondages nationaux n'avaient aucune signification réelle à ce stade de la course, mais en vain. J'étais de plus en plus sollicité par des supporters inquiets qui m'appelaient des quatre coins du pays, souvent pour me donner des conseils de stratégie politique, m'offrir leurs suggestions, se plaindre parce que nous avions négligé tel ou tel groupe d'intérêt, ou pour nous faire part de leurs doutes sur nos compétences. Deux choses ont finalement fait basculer le cours de l'histoire, et nous n'étions pour rien dans la première. Lors d'un débat à Philadelphie à la fin du mois d'octobre, Hillary, dont les prestations jusqu'alors avaient été quasi parfaites, s'est emmêlé les pinceaux, se refusant à fournir une réponse claire quand on lui a demandé si les travailleurs sans papier auraient dû avoir le droit de posséder un permis de conduire. On lui avait à l'évidence donné pour instruction de nuancer sa réponse au maximum, dans la mesure où il s'agissait d'une question clivante au sein de la base démocrate. Son refus de l'obstacle n'a fait qu'accroître l'impression déjà bien ancrée dans les esprits qu'elle se comportait typiquement en politicienne de Washington, ce qui a accentué le contraste que nous cherchions à mettre en avant. Et puis, il y a eu l'épisode du dîner Jefferson-Jackson dans l'Iowa le 10 novembre, qui pour le coup était entièrement à notre initiative. Traditionnellement, cette soirée donnait le coup d'envoi du sprint final avant le jour du caucus et servait en quelque sorte de baromètre de la course, chaque candidat prononçant un discours de 10 minutes, sans notes, devant une arène de 8000 participants potentiels au caucus et en présence de tous les grands médias nationaux. Il s'agissait donc d'un test crucial pour mesurer la popularité de notre message et notre capacité d'organisation au moment d'entamer les toutes dernières semaines de campagne. Nous nous sommes démenés pour faire de cette soirée un succès retentissant. Nous avions affrété des cars pour faire venir des supporters des 99 comtés de l'État, mobilisant ainsi une foule qui écrasait en nombre les soutiens mobilisés par les autres candidats. John Legend a donné un bref concert en notre honneur avant le début de la soirée, devant un public de 1000 personnes. Puis Michel et moi avons pris la tête du cortège qui a défilé dans les rues pour rejoindre l'arène où se déroulaient les festivités, escorté par un groupe de tambours et de majorettes du lycée local remonté à bloc, les Isis Reds, dont le joyeux vacarme nous conférait l'allure d'une armée conquérante. Mais c'est le discours lui-même qui a scellé notre victoire. Jusqu'alors, depuis les tout débuts de ma carrière politique, j'avais toujours tenu à écrire moi-même l'essentiel de mes discours les plus importants. Mais en l'occurrence, étant donné que je faisais campagne non-stop, il m'aurait été impossible de rédiger seul celui que je prononcerais lors du dîner de gala. J'avais dû m'en remettre à Favs pour coucher sur le papier, avec l'aide d'Axe et de Plouf, un condensé efficace des principaux arguments que j'avançais pour obtenir la nomination. Et Favs a assuré. À ce moment critique de notre campagne, et sans presque aucune directive de ma part, ce type qui sortait à peine de l'université avait écrit un discours fantastique, un discours qui faisait bien plus que mettre en valeur la différence entre mes rivaux et moi, entre les démocrates et les républicains. Il traçait les contours des grands défis auxquels nous étions confrontés en tant que nation, de la guerre au changement climatique, en passant par l'accès à l'assurance maladie, et soulignait le besoin qu'avait le pays d'être dirigé par quelqu'un qui lui donne un cap clair et nouveau, remarquant au passage que, tout au long de son histoire, jamais le Parti démocrate n'avait été aussi fort que lorsque ses dirigeants agissaient, non pas en fonction des sondages, mais de leurs principes, non par calcul, mais par conviction. C'était un discours digne du moment que nous vivions, digne des aspirations qui m'avaient conduit à entrer en politique et digne, je l'espérais, des aspirations du pays. J'ai passé plusieurs soirées à le mémoriser après ma journée de travail pour la campagne. Et à l'instant où j'ai fini de le prononcer, la chance avait voulu que je sois le dernier candidat à prendre la parole, j'étais aussi certain de l'impact qu'il aurait que je l'avais été 3 ans et demi plus tôt après mon discours à la Convention démocrate. Rétrospectivement, je crois que c'est à compter de cette soirée que j'ai acquis la conviction que nous allions remporter l'Iowa, et par extension, la nomination. Pas nécessairement parce que j'étais le candidat le plus brillant, mais parce que nous portions le message le plus en phase avec l'époque, et que nous avions attiré des jeunes gens doués d'un talent prodigieux qui s'étaient jetés dans la bataille pour notre cause. Tooze était d'accord avec moi. « Je crois que nous avons gagné l'Iowa ce soir », a-t-il dit à Mitch. Ce dernier, qui avait présidé à l'organisation de toute cette soirée et qui, de manière générale, était d'une véritable boule de nerfs, avait souffert d'insomnie et de poussées d'eczéma pendant une bonne partie de la campagne et perdu également pas mal de cheveux au passage. Il a couru vomir aux toilettes pour la deuxième fois au moins ce jour-là. Émilie était tout aussi optimiste, même si ça ne se voyait pas. Après mon discours, Valérie s'est précipitée vers elle, au comble de l'excitation, et lui a demandé ce qu'elle en avait pensé. « C'était super », a dit Émilie. « Eh bien, quel enthousiasme !»« Là, tel que tu me vois, je suis au max de mon enthousiasme. »